France Inter. France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir, les écrans et autres smartphones sont-ils en train de tuer notre jeunesse à petit feu? C'est ce qu'affirment Gabriel Attal et le pédopsychiatre Marcel Ruffaut dans une tribune publiée cette semaine. Ils prônent donc en réaction de nombreuses mesures d'interdiction, un état d'urgence contre les écrans, un couvre-feu numérique. Le champ lexical est guerrier car l'ennemi numérique est accusé d'intoxiquer notre jeunesse. D'ailleurs, 5 sociétés savantes affirment désormais qu'il faut proscrire les écrans avant 6 ans et non plus 3, comme c'est la règle depuis quelques années. Eh bien, nous verrons ce soir avec nos invités quelles pistes ils proposent dans leurs domaines respectifs pour que les enfants et les ados contrôlent un peu mieux les effets néfastes de cette nébuleuse numérique. Notez que tous ces efforts resteront vains sans le soutien appuyé des parents et on verra que dans ce domaine-là non plus ce n'est pas gagné. Faut-il interdire les écrans ou bien éduquer au numérique? Faites-nous part de vos témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Avec une première auditrice en ligne, Mélanie. Bonsoir.
Bonsoir.
Témoignage ou question?
Alors, un témoignage.
Allez-y, vous êtes à l'antenne.
Eh bien, je suis maman d'une enfant à l'école primaire et d'un collégien de 15 ans. Et avec son papa, nous essayons de maîtriser le recours aux écrans pour qu'il ne soit pas systématiquement la source de toutes les occupations. Mais je suis depuis quelques années un peu agacée par le double discours tenu par l'Éducation nationale. D'un côté, des injonctions, attention aux écrans, attirez vos enfants vers autre chose, stimulez-les avec autre chose, que je conçois très très bien évidemment. Et en parallèle, nous sommes sommés d'installer des applications d'organisation du type Pronote ou des tas d'applications pédagogiques, même à l'école primaire, on nous l'a proposé. Donc on voit régulièrement aussi des recours à des vidéos YouTube en guise de devoirs à la maison, accompagnées certes de questions après, mais tout de même, on se pose beaucoup de questions. Donc que fait un collégien, même en étant tout à fait honnête, quand il rentre des cours après le collège, il doit absolument consulter Pronote pour avoir ses devoirs sur son téléphone. Évidemment, soyons pas naïfs, il ne reste pas sur Pronote, c'est évident, nous on le ferait même pas. Donc ce que je voudrais dire, c'est que nous parents, on a besoin que l'Éducation nationale soit un peu cohérente dans son discours, parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'osciller entre ces deux propos. Et je pense qu'à l'école primaire et au collège, on peut encore relativement bien se passer des supports numériques systématiques. Voilà.
Merci beaucoup de ce témoignage très intéressant. Je vais le soumettre à nos invités. Ils sont 3 ce soir pour vous répondre. Sylvie Dieu-Ozica, vous êtes pédiatre à l'hôpital de Bondy en Seine-Saint-Denis et l'autrice du livre « L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique » paru récemment chez Grasset. Vous êtes aussi membre du collectif Cause sur la surexposition des enfants aux écrans. Gilles Vernet, vous êtes conférencier, enseignant en CM2, membre de l'association Éducation numérique responsable. Vous êtes aussi réalisateur du film. Et si on levait les yeux, pardon, j'ai dit une bêtise.
Éducation numérique raisonnée.
Raisonnée, je vais rajouter le raisonnée. Et si on levait les yeux, c'est le film que vous avez réalisé, Une classe face aux écrans. C'est devenu aussi un livre, je crois.
Tout à fait.
Et si on levait les yeux, paru l'an dernier chez Vuibert. Et puis Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, créateur des repères 3, 6, 9, 12 dès 2008. 3, 6, 9, 12 plus, qui a donné ce livre l'an dernier intitulé « Apprivoiser les écrans et grandir ». C'est aux éditions RS. Et puis nous passerons un coup de fil tout à l'heure à Sylvie Chocron, qui est neuropsychologue et directrice de recherche au CNRS. On a entendu cette première auditrice nous mettre en pleine figure ces injonctions contradictoires. Je vais me tourner vers vous, Gilles Vernet. Je rappelle que vous êtes non seulement conférencier, mais aussi enseignant en CM2, membre de l'éducation numérique responsable raisonnée. J'ai pas oublié le raisonner cette fois-ci. Contradictoire, l'attitude de l'Éducation nationale vis-à-vis des écrans.
Oui, d'une certaine manière, c'est quelque chose qu'on entend de manière très régulière de la part des parents qui sont mis en porte-à-faux, puisque l'enfant va sans arrêt dire « Est-ce que je peux aller consulter ? J'ai besoin d'aller consulter pour l'école, pour après volontiers dévier. » D'autant plus que, comme c'est dit, ces outils, il y a plein de choses qui sont très bien faites avec de la couleur pour attirer l'œil et faire dévier l'enfant. Après, il y a une question d'à quel moment on fait rentrer le numérique, parce que le numérique est quand même une réalité de nos sociétés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, autant, je pense qu'à l'école, c'est relativement inutile, même si on a les outils pour, hein, on a la classe numérique qui permet de communiquer éventuellement avec les parents. Moi, j'avoue très honnêtement que je passe par le bon vieux cahier texte, parce que je pense que dans un premier temps, c'est vraiment l'ancrage à du texte physique qui est important pour l'enfant. Après, au collège, d'une certaine manière, il paraît logique, selon moi, de faire rentrer le numérique, mais avec des règles. Il y a des professeurs qui peuvent envoyer des devoirs trop tard, il y a des professeurs qui peuvent donner des notes, mettre des notes à 10 heures du soir, ce qui fait que l'enfant veut rafraîchir pour savoir s'il n'a pas gagné une place ou autre, et ce qui crée une addiction, etc. Et dernière chose, un point important, plutôt que d'offrir un portable pour pouvoir se connecter à Pronote ou École Directe, c'est mieux l'ordinateur portable personnel. Le smartphone est vraiment un fil à la patte que l'enfant va garder en permanence sur lui, avec une addiction d'autant plus démultipliée qu'il l'a tout le temps sur lui. L'avantage du téléphone... Du
portable, la tablette, c'est que
l'ordinateur
portable, c'est qu'on s'assied devant et qu'on est un peu plus concentré et que c'est pas... Vous souhaitiez réagir,
docteur Sylvie Diozica ? Oui, un petit commentaire. En plus, on n'a pas du tout évalué ce qu'on fait, hein, quand même. On a mis tous ces écrans dans les écoles sans aucune évaluation, à savoir c'était supérieur et qu'il y avait un intérêt pour l'enfant. Et il y a un autre point sur lequel l'éducation nationale devrait s'inquiéter, c'est l'effet sur la vision qui, à l'avenir, pourrait poser problème dans un usage trop
les
important.
Les ophtalmos ont de l'avenir.
Eh bien oui, mais les enfants, leur avenir peut être compromis. Ça, c'est un point sur l'école.
Serge Tisseron, en tant que psychiatre, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur ces questions d'écran et leurs conséquences sur les plus jeunes. Je rappelle que vous êtes le créateur des repères 3, 6, 9, 12 ans. L'éducation nationale est vraiment contradictoire concernant les tablettes.
Oui, elle est contradictoire et elle est contradictoire aussi par le fait quand même que trop d'enfants sont mis devant un écran à la pause méridienne. Et ça aussi, c'est un problème grave, alors que la pause méridienne va être consacrée à des activités éducatives, des activités de jeu collectif, des activités sportives. Voilà. Alors, s'agissant de Pronote, c'est sûr qu'il y a un énorme problème. D'ailleurs, les experts réunis dans le cadre de la commission réunie par M. Macron ont dit qu'il faudrait limiter l'accès des élèves à Pronote. Alors, sur ce qui concerne l'utilisation d'un ordinateur portable plutôt que d'un smartphone, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec Gilles Vernet. Le gros problème, c'est que le smartphone donne accès à l'enfant à Internet en tout lieu, à tout moment. Beaucoup trop d'enfants dorment avec leur smartphone comme ils dormaient plus petits avec leur doudou. Et évidemment, ils peuvent être tentés de joindre des camarades ou de regarder des programmes illicites, voire de répondre à des appels et du coup perdre en sommeil. Alors on sait que c'est tellement important. Donc c'est vrai qu'il y a des injonctions contradictoires. Et c'est vrai aussi que malheureusement, même si l'utilisation des écrans peut être utile dans certaines disciplines, par exemple les langues étrangères, eh bien, il n'empêche qu'il n'y a pas vraiment eu d'expérimentation, que les choses ont été balancées beaucoup trop vite, beaucoup trop brutalement. Il aurait fallu que la moitié du budget soit consacrée à la formation des enseignants et l'autre moitié au matériel. Malheureusement, il n'y a eu que le matériel.
Et aussi la formation des parents et l'information des parents la plus précoce possible qui n'est pas faite.
On va y venir au rôle des parents justement. Nous avons Julie qui est en ligne. Bonsoir Julie.
Bonsoir.
Quelle est votre question ?
Alors notre aîné va entrer au collège l'année prochaine et on ne souhaite pas qu'elle ait de smartphone parce qu'on pense qu'elle n'a pas du tout l'âge justement pour se retrouver toute seule, livrée avec tous les contenus internet qui sont possibles. Mais c'est très difficile pour les parents parce que du coup ma fille a très peur de se retrouver la seule de sa classe à ne pas avoir de smartphone l'année prochaine en sixième, ce qui est fort probable. Et du coup c'est compliqué, on ne souhaite pas que son enfant soit exclu et en même temps on ne veut pas qu'elle en ait un et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de consignes claires sur la conduite à tenir en tant que parent. Donc voilà, c'est assez compliqué, même quand on est comme nous convaincu qu'à 11 ans, 12 ans, les enfants ne devraient pas avoir un smartphone.
Merci de cette question qui va revenir souvent. Et c'est notamment sur l'entrée en sixième que ça se passe. Gilles Vernet, je rappelle que vous êtes instit, enseignant, professeur des écoles en CM2. En CM2, il y a déjà une grosse demande avant la sixième pour avoir un téléphone portable et un smartphone ?
Oui. Dans mon film, il y avait un élève qui disait avant, quand t'avais un téléphone à 13 ans, c'était magnifique. Maintenant, quand t'as 9 ans, c'est normal. Et on a peut-être la moitié de nos élèves qui sont déjà équipés. Il faut quand même préciser la question du contrôle parental. Il y a quand même la possibilité et l'obligation même de mettre, quand on donne un portable à un enfant, un smartphone, de mettre en place le contrôle parental nécessaire pour éviter le pire. Mais globalement... Et c'est pas fait. Mais pour répondre à cette question qui est très importante, il s'agit de fédérer d'autres parents. Essayez, madame, de parler à des parents, des amis de votre enfant pour voir avec eux, les convaincre de la réalité, de l'intérêt de ne pas avoir de smartphone. Et quand ils sont plusieurs, ils vont même pouvoir en éprouver une forme de fierté. Et puis, dernière chose, c'est véritablement, si on voit tous ces enfants, c'est comme la cigarette, les enfants qui sont obligés parce que les autres fument à la sortie de fumer. On ne va pas se dire « Oh bah oui, bah il faut qu'ils fument ». Il y a une dimension addictive à ces objets et en prémunir son enfant jusqu'à un âge avancé, peut-être 14 ans, 13-14 ans au moins, peut être fort utile quand même.
Docteur Sylvie Diozica.
Oui, moi je propose une chose assez simple qui est faite dans certains collèges de mon département et qui donne de très bons résultats et ça pourrait être une idée pour les décideurs politiques, c'est d'offrir un Nokia, non plus maintenant, j'ai une pub, hein, mais j'ai pas d'intérêt particulier, non pas en sixième comme vous le disiez, mais dès le CM1 par exemple, pour pouvoir appeler ses parents, envoyer des SMS, et c'est ce dont les enfants ont besoin et les parents ont besoin. Et comme d'habitude, si tout le monde a la même chose, il n'y a plus de problème.
Bonsoir Sylvie Chocron.
Bonsoir.
Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS. Votre dernier livre paru cette année s'intitule « Plonger dans votre cerveau » aux éditions Presse de la Cité. On va parler des addictions. Que se passe-t-il ? On va commencer par l'adulte peut-être. Que se passe-t-il dans le cerveau de l'adulte lorsqu'il devient un spectateur passif d'informations qui s'enchaînent à toute allure et sans fin ?
Alors, que se passe-t-il ou qu'est-ce qu'il ne se passe pas, justement ? Donc, oui. En fait, effectivement, quand vous êtes sur un réseau ou sur une application type TikTok, pour ne pas la nommer, vous êtes, comme vous l'avez dit, véritablement passif. Et donc, vous êtes complètement captif de ce qui arrive. Il n'y a plus aucune capacité de choisir, d'arrêter, et ni même de réfléchir, d'exercer son jugement critique, de mémoriser. Donc en fait, c'est un circuit très court dans le cerveau qui va de la détection visuelle, la reconnaissance visuelle pour voir ce qu'il y a sur l'écran. Un petit peu d'émotions de base, vraiment de base. Donc la joie, la peur, la colère, le dégoût, vraiment des émotions de base. Et puis, il n'y a pas de place pour exercer toutes les capacités les plus élaborées. Et donc, finalement, on le rappelle toujours, parce que c'est un point important, quand vous êtes sur votre téléphone, ou que ce soit un enfant ou un adulte, ou quand vous êtes captif comme ça, il y a ce que votre cerveau ne fait pas, pendant que vous êtes captif. Et puis, il y a toutes ces tâches que vous ne développez pas et qui vont vous servir vraiment dans l'ensemble de votre vie mentale. On a besoin d'apprendre à se contrôler, on a besoin d'apprendre à choisir, on a besoin d'apprendre à inhiber quelque chose, à refuser quelque chose. Et l'utilisation de ces outils, finalement, empêche le développement de ces capacités qui deviennent matures uniquement vers 18-20 ans. Donc c'est dire, en fait, de l'enfance jusqu'à 18-20 ans, vous n'exercez pas ces capacités et vous avez un risque de ne pas pouvoir vous en servir, même dans d'autres domaines.
Donc le rythme effréné de vidéos courtes est subi souvent, ça génère donc des émotions simples et qui nous privent de nos jugements critiques. Vous souhaitiez réagir, Sylvie Diozica.
Oui, c'est ce que j'écris avec mon mari pédiatre également, l'enfant écran, comment échapper participer à la pandémie numérique, ce que vous dites s'applique aux tout petits. Il faut vraiment penser à ces tout petits qui se retrouvent sur des vidéos totalement inadaptées, qui saturent leur cerveau, qui les empêchent totalement d'apprendre ce qui est autour d'eux et qui les hypnotisent totalement. Et ça arrive à de nombreux enfants et c'est ce qu'on combat et c'est pourquoi il est nécessaire de protéger les enfants parce que ça ne convient pas effectivement aux moins de 6 ans et encore moins aux moins de 3 ans.
Sylvie Chocron, avant de vous libérer, une dernière question. L'Assemblée nationale a approuvé il y a quelques semaines la création d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Vous en attendez quoi ?
Ah ben moi, je pense que c'est déjà extrêmement important que nos politiques se posent la question, qu'ils tirent une sonnette d'alarme. Effectivement, on sait actuellement qu'il y a des effets délétères très importants. Donc, en particulier sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, on a des tendances qui poussent les jeunes femmes mineures ou majeures, mais jeunes adultes, à s'affamer, à faire des régimes drastiques. On sait à quel point la santé mentale est menacée par l'utilisation des réseaux sociaux. Donc moi, j'attends une vraie prise de conscience et des mesures, parce qu'on parle d'interdire effectivement les écrans avant 6 ans ou de réglementer pour les mineurs, mais c'est un problème de santé publique qui inclut évidemment aussi les parents et les adultes de manière générale. Donc moi, je pense que c'est un vrai problème de santé publique. Je suis ravie que les politiques s'en emparent et j'attends que tout le monde collabore, chercheurs, cliniciens, politiques, enseignants, et qu'on puisse avoir des mesures effectives et utiles.
Merci beaucoup Sylvie Chocron. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru cette année, il s'intitule « Plonger dans votre cerveau ». Le livre paraît aux éditions Presse de la Cité. Serge Tisseron, vous souhaitiez réagir lorsque l'on disait avec le professeur Chocron que finalement ces vidéos courtes et un peu effrénées, ça favorise nos basses émotions, en tout cas nos émotions simples, au détriment de notre jugement critique.
Oui, alors ça c'est absolument certain. En revanche, il ne faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas que TikTok. Bien sûr. D'autre part, sur TikTok, il y a d'autres usages possibles. C'est certain que TikTok tente à fidéliser les usagers, que c'est très difficile de sortir de ces boucles lorsqu'on commence à s'y accrocher. En même temps, certains enfants décrivent qu'ils sont tellement inquiets que ça crée chez eux une atmosphère plutôt rassurante. Ils sont certains de trouver là des vidéos qui correspondent à leur goût et qui les apaisent. Et d'autre part, il ne faut pas oublier quand même que si TikTok est dans le collimateur, il y a aussi Snapchat, il y a aussi Instagram, et que les jeunes font beaucoup d'activités diversifiées. Il y en a même qui vont s'informer et qui vont lire des articles de journaux sur ces plateformes. Il y en a qui vont se retrouver, il y en a qui... Parce que vous savez, les ados, ils sont accros à leurs potes. Et le grand problème qu'on n'a pas encore évoqué, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'endroits dans lesquels les ados, les pré-ados peuvent se retrouver en présence physique. Les parents ne veulent pas qu'ils sortent dans la rue, c'est dangereux. Seuls les riches peuvent s'offrir des activités, des activités payantes, des clubs d'activités. Et donc, du coup, les smartphones sont le seul endroit, les réseaux sont le seul endroit où les jeunes aujourd'hui peuvent, hélas, se retrouver. Donc, si vous voulez, on voit bien que la question, ça concerne pas seulement le fait de travailler à réduire la consommation par des limites imposées, mais aussi à proposer des alternatives. Et si on ne propose pas des alternatives, et ça, c'est le rôle des villes, des régions, les ados risquent de basculer des réseaux sociaux vers GPT-4 ou GPT-3 et l'intelligence artificielle. Ils s'inventeront un compagnon imaginaire et ça sera pire encore que d'aller sur les réseaux retrouver des copains. Donc il faut vraiment réfléchir aux alternatives avant de prendre des décisions qui pourraient faire migrer cette population vers des choix encore plus problématiques.
On doit protéger les enfants.
On doit de toute façon.
C'est exactement,
et on ne le fait pas. Ils sont sur TikTok et ils ne sont pas informés sur TikTok.
Ils ne sont pas suffisamment protégés sur TikTok.
Absolument pas.
On parlait du rôle des parents tout à l'heure. Je voudrais peut-être revenir à cet aspect, Gilles Vernet. Je rappelle, vous êtes enseignant en CM2 et vous impliquez, vous, les parents, dans la recherche de discipline des usages du numérique. Vous échangez avec eux. Avez-vous le sentiment d'être toujours écouté et surtout d'avoir rendu les parents plus responsables vis-à-vis de leurs enfants ?
Oui, du moins j'espère. Et en l'occurrence, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont, ils m'en sont gré de cette réflexion que je mène avec les enfants, parce que ça va les aider, eux, à la maison, pour dire, tu vois, à l'école, on te le dit déjà, le maître te l'a dit, donc tu dois faire attention. Donc ça les épaule, en quelque sorte, en particulier, souvent des parents seuls, des parents isolés, qui sont dans des situations pas toujours évidentes. Il y a clairement une question d'accompagner l'enfant dans l'ensemble de son processus d'acclimatation aux écrans, parce que les écrans sont absolument partout dans notre société. Il y a des choses merveilleuses sur les écrans, comme je l'expliquais, enfin sur les écrans en général. Hein, ma mère m'a fait voir toute mon enfance des merveilleux films qui m'ont marqué autant que des grands livres. On parlait d'autres choses. Par pitié, parlons de la lecture.
Oui.
Si les enfants le sport, chaque année... Alors le sport, évidemment, pour l'aspect corporel, mais pour l'aspect de meubler l'ennui. C'est tous ces enfants que j'ai, année après année, qui lisent et qui, malgré des conditions sociales pas toujours faciles, des parents qui ne parlent pas très bien français à la maison, me font des dissertations très jolies, très nourries, c'est systématiquement des enfants qui lisent, c'est des enfants qui apprennent à s'exprimer. Et aujourd'hui, moi, ma crainte principale par rapport aux écrans, et je tiens vraiment à témoigner, on parle beaucoup de tous ces aspects, effort, santé, et puis l'attention, la mémoire, mais on parle pas assez du langage. Le langage est véritablement en train de s'étioler. Et j'aimerais vraiment bien qu'on aborde le pourquoi, et le pourquoi n'est pas seulement que les enfants sont sur écran, c'est que la famille est sur écran, et que les temps de langage se réduisent comme peau de chagrin.
On y vient dans un instant. Quels usages numériques pour les enfants, pour les ados? On en parle jusqu'à 20h.
France Inter. Le téléphone sonne.
Pour revenir sur tout cela, Anouk est en ligne. Vous nous appelez de Strasbourg. Bonsoir Anouk.
Oui, bonjour. Je réagis parce que moi je suis mamie. J'ai l'expérience d'avoir éduqué mon fils et aujourd'hui je participe avec mon petit-fils qui a 11 ans. Il a un téléphone portable par nécessité pour savoir où il est et ainsi de suite, et il l'utilise, et ses parents ont verrouillé un certain nombre de choses. Et bon, il n'a pas accès à TikTok, c'est sûr. Bon, il utilise, les enfants utilisent le portable de la même façon que nous on l'utilise. Si eux sont addicts, c'est que nous sommes addicts. C'est une véritable banque de données, il faut surtout voir ça. C'est un outil du 21e siècle, il l'utilise. Et à nous, les parents, en fait, pour éviter cette addiction, c'est simplement de leur proposer aussi autre chose. Il faut parler avec eux, communiquer avec eux, ne pas les laisser dans leur bulle, enfermés dans leur chambre avec leur portable. Il faut aussi parler avec eux et leur proposer. Mon petit-fils lit également, et je ferai remarquer aussi qu'il va rentrer en sixième et qu'il sait déjà parler, faire des phrases totales en anglais. Quand moi je lui parle en anglais, il comprend très bien ce qui se passe. À force de regarder des tutos de jeux vidéo sur internet qui sont des tutos en anglais ou en américain, il commence. C'est exactement comme si on l'envoyait dans un pays de langue anglaise, et il est en immersion totale. Il faut bien qu'il se débrouille pour apprendre. Donc il y a plein de choses positives là-dedans, et pour éviter le négatif, c'est surtout ne pas se servir du téléphone portable comme une nounou, et ça arrange bien des parents qui soient sur les téléphones portables. Pendant ce temps-là, on ne s'en préoccupe pas. Il faut leur proposer d'autres activités, d'autres choses, et surtout parler avec eux.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage. Je vais le soumettre à nos invités. Serge Tisseron, finalement, l'enfant, qu'il soit en bas âge ou même un peu plus vieux, au final, il ne fait qu'imiter les codes de ses parents.
Alors oui, d'autant plus à l'adolescence. On avait fait une enquête il y a quelques années et on avait demandé à des jeunes qui 8, 12 ans, qui n'avaient pas de smartphone, qu'est-ce qui les embêtait dans la vie. Ils disaient que c'était que leurs parents soient constamment sur leur smartphone. Maintenant, ça porte un nom d'ailleurs, c'est la technoférence. Le fait que quand les parents interagissent avec l'enfant, ils interposent le smartphone entre l'enfant et eux. Et on demandait aux enfants, mais alors est-ce que vous leur dites à vos parents qui sont trop sur leur smartphone? Et les enfants répondaient non, on leur dit pas parce qu'on est j'espère que quand on aura un smartphone nous-mêmes, ils nous laisseront faire pareil. Mmh. Et là, vous voyez bien comment il y a un cercle vicieux qui s'installe. Alors, c'est vrai que depuis 2008, hein, dans le cadre des balises 3, 6, 9, 12, je dis toujours, mais si on réduit tous les conseils à un seul, c'est quoi? Ben, c'est prendre les repas sans
les
écran,
pas, oui.
Sans télévision, sans smartphone, voilà, pour en faire un moment d'échange privilégié. Et on a la chance que plusieurs études actuellement montrent en effet que les temps d'échange entre parents et enfants peuvent avoir un effet considérable sur les performances intellectuelles et les compétences verbales, même si par ailleurs l'enfant est devant certains écrans.
Serge Tisseron, vous prenez depuis 2008 un écran, aucun écran avant 3 ans. Or, il y a deux jours, 5 sociétés savantes affirment qu'il faut proscrire les écrans avant non plus 3 ans, mais 6 ans au regard des dernières connaissances. Vous en pensez quoi ?
Alors, j'en pense qu'il faut quand même faire une différence entre les écrans accompagnés et les écrans non accompagnés. Là, il y a beaucoup d'études, enfin quelques études, mais c'est seulement depuis les années 2020, donc on n'est qu'en 2025, des études commencent à apparaître qui montrent que les écrans accompagnés ont un effet très positif, enfin un effet positif sur le développement du langage, le développement des compétences de l'enfant.
Non, pas autant que la présence du parent.
On va en parler.
Mais je n'ai pas fait une comparaison. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Simplement, je dis que ça montre que les écrans accompagnés ont un effet positif sur les compétences. Parce que c'est difficile quand même, avant 6 ans, dans les rythmes familiaux, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun écran. Tout à l'heure, Gilles Vernet parlait des films qu'il a vus et qui ont pu marquer sa vie. Je pense qu'il a peut-être vu certains films aux alentours de 5-6 ans, peut-être
docteur,
pas, mais en tout cas, beaucoup d'enfants les voient.
Sylvie Diozica, est-ce que vous reconnaissez des bienfaits aux écrans ?
Mais oui, moi j'ai 5 enfants et je reconnais des bienfaits aux écrans. Il n'est pas question de revenir en arrière, on est bien d'accord. Sauf qu'on a donné un produit addictif par nature aux parents et on ne leur a donné aucune solution et aucune information la plus précoce possible, c'est-à-dire pendant la grossesse quasiment et ensuite à la maternité. Ça, c'est pas fait. Donc les parents se retrouvent piégés. En plus, on a cette petite musique dont on ne parle pas qui est, c'est peut-être éducatif, c'est peut-être pédagogique, alors que ça ne l'est pas du tout.
On en parle ce soir.
Ah oui, on en parle ce soir et tout à fait. Je remets une couche parce qu'il me semble important de dire aux parents qu'il n'y a rien d'éducatif avant 6 ans, que si on regarde un bon film accompagné de son parent, bien évidemment qu'on aura un intérêt. Le problème, c'est que les programmes, les contenus qui sont proposés sont de mauvaise qualité dans la majorité des cas et qu'ils sont produits pour rendre l'enfant captif. Vous avez des images hyper rapides qui fait que l'enfant ne lâche pas et il se retrouve sans capacité à faire quoi que ce soit d'autre que regarder. Et puis, on a parlé là d'une notion de technoférence dont nous parlons au collectif Cause depuis bien longtemps, bien avant, qui est un problème, puisque si le parent est capté par son écran, il ne peut pas interagir avec l'écran que l'enfant regarde. Et donc tout le monde est dans son monde, dans sa bulle, et il ne se passe rien d'ailleurs pour l'un comme pour l'autre.
Tisseron, on ne va pas faire un débat non plus, et on va revenir à Gilles Vernet, mais vous souhaitiez réagir.
Il n'est pas question de dire que les parents doivent regarder les dessins animés frénétiques et décervelants que leurs enfants regardent le matin. Il est question de dire que les parents doivent choisir des programmes éducatifs et les regarder avec leurs enfants. Si vous voulez, il ne s'agit pas de dire que les parents doivent se mettre devant les écrans.
On ne leur dit pas ce
enfants,
qui est
on leur dit pas suffisamment, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Gilles Vernet, vous êtes enseignant, je le rappelle, en CM2. Vous évoquiez tout à l'heure cette érosion du langage. Je voudrais qu'on y revienne. Vous l'avez constaté dans vos...
Je le constate année après année, depuis que je suis enseignant, une plus grande difficulté à s'exprimer, exprimer ses idées, à argumenter, c'est de plus en plus frappant et de plus en plus inquiétant. Ce dont je voulais témoigner par rapport à ce qui a été dit, c'est avec notre société de production du film Wake Up Production, on organise beaucoup de rencontres avec des collégiens, avec des écoles, un peu partout en France. Et ce qui est vraiment frappant lors de ces rencontres avec 200 collégiens qui sont dans la salle de cinéma, c'est quand la parole se libère sur le manque affectif que génèrent ces réseaux. Et le plus on parle des parents en les culpabilisant beaucoup, d'une certaine manière, mais on oublie aussi les frères et sœurs. Ils n'arrêtent pas de dire, moi, mon frère, il me dit dégage, ma sœur, elle me dit, j'ai pas le temps, va ailleurs, etc. Et il y a une forme de douleur affective. Et il y a, quand on parle du manque d'échange, il y a le manque d'échange langagier, mais en général, je t'aime, c'est aussi un échange affectif. Et donc, il y a ce besoin profond qu'il ne faut pas oublier. Et chose très importante, pour déculpabiliser tout le monde. On dit, bien sûr, il y a la dimension addictive qui est indiscutable, mais il y a l'exponentiel des communications, tout autant qu'on est, adolescents compris, 300-400 messages jour gérés. On gère un nombre incommensurable de messages qui, si on n'éteint pas son portable, nous en rendent automatiquement esclaves. Et c'est ce qui doit faire comprendre aux familles qu'elles doivent sanctuariser des temps sans écran. Monsieur Tisseron disait le repas, mais au-delà de ça, le week-end, 2 heures où on va se balader, des moments, mais l'écran n'est plus là pour interférer, faire cette fameuse technoférence.
Je propose justement, effectivement, et ça c'est le cause collectif sur exposition écran qui a proposé ça, ce qu'on appelle les 4 pas, et ça c'est très important pour les parents.
4 pas, c'est-à-dire
les 4 pas, ben ça c'est très pratique et très utile puisque c'est un lieu sans écran. Si les ados n'avaient pas d'écran dans leur chambre, si les parents montraient l'exemple et n'avaient pas d'écran dans leur chambre, ce serait quand même une bonne chose. On va acheter des petits réveils et tout le monde dormirait beaucoup mieux en qualité et en quantité. Et la deuxième partie, c'est 3 temps. 3 temps essentiels pour l'enfant et pour tout le monde. Les repas, c'est quand même 4 fois par jour.
Sans écran.
Sans écran. On se parle, on discute, on se regarde dans les yeux et on éteint cette télé, on écoute la radio, ça c'est bien. Et puis le deuxième temps important, c'est 1 heure avant de dormir. Si vous regardez un écran avant de dormir, vous ne serez pas prêt à vous endormir. On sait que la mélatonine ne sera pas bien sécrétée et que des images stimulantes et les réseaux sociaux avec les notifications vont vous empêcher de dormir et vont vous-même vous réveiller la nuit. Et le troisième temps qui est important pour les maîtresses, les institutrices, elles le disent bien. Absolument. Et vous le dites sûrement, c'est le matin, pas d'écran avant d'aller à l'école.
C'est
donc
crucial.
En fait, l'écran, ben voilà, parce que sinon la maîtresse, elle ne fait pas Sam le pompier et ça n'intéresse absolument pas l'enfant. Et c'est vraiment, vraiment important. Donc ces 4 pas qu'on retrouve sur le collectif sur exposition
si
écran.
Si on a le temps avant 20h, j'aimerais que vous nous reparliez aussi tout à l'heure des retards de développement possibles, des surpoids qui sont
à la santé mentale et physique,
les troubles du sommeil. On va y revenir, j'espère, avant 20h. Laurence est en ligne. Bonsoir, Laurence.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Côte d'Or.
Ah, j'appelle de Côte d'Or. Et je voulais en fait répondre à la maman tout à l'heure qui s'inquiétait parce que sa fille rentre en 6e et elle se demande si elle doit avoir un portable ou pas. Et en fait, moi, je voulais juste lui dire que mon fils est en 4e et qu'il n'a pas de il a un portable depuis l'année dernière, mais qu'il reste à la maison. Et qu'au collège, il n'emporte jamais son portable. Et que finalement, ça se passe très très bien. Et que j'ai vraiment l'impression qu'on se met une pression, nous, une pression sociale à dire « Oh bah oui, alors si on ne fait pas comme tout le monde, ça ne va pas, etc. » Mais en fait, moi j'ai envie de dire « Mais non, c'est pas possible, on ne peut pas réagir comme ça. » Et en fait, il n'y a pas de discrimination particulière par rapport au fait qu'il n'ait pas de portable au collège. Et en plus, au collège, de toute façon, ils n'ont pas le droit de l'avoir. Ni en classe, ni dans la cour. Donc,
ah, même pas dans la cour.
Même pas...
Normalement.
Ah ben non.
D'accord.
Non, normalement, ils n'ont pas le portable dans la cour. Enfin,
merci.
Voilà, donc,
merci beaucoup. De...
Je voudrais juste rajouter une petite chose.
Allez-y, avec plaisir.
C'est que l'autre jour, on était au restaurant et qu'à côté de nous, il y avait une famille, maman, papa, mamie, etc. Et 2 petits. Un petit 2 ans et une petite fille d'à peu près 8 ans. Et les 2 enfants étaient sur les smartphones. Et mon fils les a regardés et en fait ça l'a choqué et il m'a dit mais c'est pas possible. Donc alors moi je m'expose tous les jours à des résistances de sa part parce qu'il veut, il est attiré comme tous les gamins. Mais n'empêche que là je me dis super, je suis contente parce que quand même quelque part j'ai déjà un petit peu gagné quelque chose. Voilà.
Merci beaucoup de votre témoignage précieux. Votre enfant en quatrième est sans portable. Gilles Vernet, je voudrais revenir sur votre parcours, enfin non pas votre parcours, vous êtes ancien trader devenu instituteur. Vous avez mené une expérience originale dans une école du 19e arrondissement de Paris. Vous avez proposé aux élèves de réfléchir à la place qu'occupent les écrans dans leur vie. Cette expérience a duré, je crois, toute la saison scolaire.
Oui, toute l'année.
Qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus marquant dans les conclusions de cette opération ?
C'est les 10 jours qu'on a fait à la fin, puisqu'on partait en classe découverte dans la Meuse, et donc ils ont été au contact de la nature. J'avais autorisé les smartphones pour le voyage, mais arrivés, ils devaient les donner, ils les avaient plus pendant 10 jours. Et aucune demande de les avoir, mais je m'attendais à ce qu'ils disent, ils parlent de la nature, tout ce qu'ils recouvraient, de leur environnement, ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'ils ont dit le plus, et ça fait écho à ce que je disais, ils ont dit que là, ils avaient créé des liens d'amitié, que le soir, ils parlaient, que quand ils marchaient, ils parlaient, et qu'ils avaient découvert un tel et un tel.
Les quatre pas que vous évoquiez.
Voilà. Voilà. Et ces élèves, aujourd'hui, pour faire écho à ce que disait la dame, ils m'ont raconté que quand ils sont arrivés au collège, ils se sont dit, quand ils ont vu les ados se connecter tous à la sortie et s'asseoir sur des bancs en ligne, sans plus regarder, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces drogués ? Parce qu'ils avaient été, entre guillemets, formés à avoir un regard critique. La question, c'est quand même de développer ce regard critique chez nos enfants, ce qui est clé. Donc,
Serge Tisseron, vous souhaitiez réagir à cette expérience, peut-être ?
Oui, tout à fait, parce que déjà, il y a une vingtaine d'années, quand la télévision était pointée comme perturbant les relations familiales, il y avait des gens qui partaient comme ça, dans des lieux où ils se retrouvaient ensemble, et des camps de vacances, et moi, j'allais faire des conférences, et je leur disais, vous regardez la télévision ? Ici, ils disaient, non, on ne la regarde pas. Je leur disais, pourquoi ? Ben, ils me disaient, parce qu'on nous propose des tas d'autres choses. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien, en fait, que c'est les alternatives aux écrans qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on va leur proposer d'autre ? Il ne suffit pas d'alerter les parents sur le fait que les écrans sont problématiques. Il ne suffit pas non plus de croire que parce qu'ils hochent la tête en disant « oui, oui, on comprend bien », ils vont changer de comportement. Ça, tout le monde sait bien qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a une grande différence. Donc ce qu'il faut, c'est créer des alternatives. Et ça, vraiment, c'est des responsabilités des communautés locales. Hein. Et moi, je milite pour que les cours de récréation et les gymnases, les écoles soit ouvert le week-end aux enfants sous la responsabilité des associations familiales, si les mairies ne veulent pas payer un gardien tout le temps. Les parents sont beaucoup de parents sont assez motivés pour prendre en charge ce genre de choses. Et si on ne crée pas des alternatives en utilisant les écoles, parce qu'il n'y a plus d'espace de jeu dans la plupart des villes pour les ados, il y en a pour les bébés avec des bacs à sable, il y a des pans pour les vieillards à l'ombre parce qu'ils votent, mais il n'y a rien pour les pré-ados et les ados. Donc il faut réagir de toute urgence là-dessus et lancer un grand programme destiné à ce que les enfants qui ne sont plus devant leur portable puissent jouer dehors au ballon, notamment.
Ça revient aux politiques, effectivement. Docteur Sylvie Diozica, quelles sont vos approches à l'hôpital de Bondy pour tenter de sevrer les enfants addicts aux écrans?
Les enfants sont addicts parce que les enfants se sont retrouvés pris dans cette captologie qui est encore une fois faite pour les capter, que les parents se sont retrouvés face à cette technoférence et non disponible. Et donc quand on réapprend aux parents, et donc les parents ont besoin qu'on leur réapprenne comment un enfant apprend à parler, ce sont les meilleurs orthophonistes, il faut leur redire sans cesse. Hein. Et donc s'ils jouent avec eux, l'enfant reprend et sort de sa bulle, lève les yeux et se retrouve en contact. Et malheureusement, il y a des milliers, des millions d'enfants, c'est pour ça que nous parlons de pandémie numérique dans notre livre. Il faut comprendre que l'écran ne convient pas à l'enfant de moins de 6 ans et qu'il faut arrêter de lui proposer, ça ne lui apprend rien.
Julie à Rennes, il reste 30 secondes, le docteur Sylvie Diozica parlait des orthophonistes. Vous êtes orthophoniste, juste votre témoignage en quelques secondes s'il vous plaît.
Oui, bonsoir, je vais essayer de faire vite. Je suis totalement d'accord avec ce que dit le docteur Sylvie Diozica, dont j'ai lu les ouvrages. Nous, les orthophonistes, on constate tout ça depuis des années. Et quand on en parle, alors on a... Aujourd'hui, c'est bien, c'est clair, c'est prouvé, mais ça fait pas si longtemps que ça. Et il faut soutenir les parents. Moi, je suis pour qu'on soutienne les parents, qu'on les informe au mieux. Ce ne sont pas eux les coupables.
Merci.
Les coupables, ce sont les géants du numérique.
On voulait vraiment entendre votre témoignage. Merci à tous d'avoir répondu aux auditeurs de France Inter. Le téléphone sonne, c'est terminé. À suivre, l'heure philo, votre heure philo. Patricia Martin, bonsoir.
Bonsoir Eric Delvaux.
On va beaucoup pleurer ce soir.
Oui, est-ce que vous êtes du genre à pleurer, vous ?
Pas beaucoup, ça m'arrive.
Mec,
mais
ça pleure pas, c'est ça.
Idée reçue.
Je sais pas, il y en a beaucoup des idées reçues.
Et donc l'émission philosophie ?
Sur les sanglots, les pleurs, les larmes avec Estelle Ferrarez et Sarah Ray.
À tout à l'heure, Patricia Martin. L'heure philo après le flash de 20h et après les petits bateaux qui ont toujours de bonnes questions à poser.
Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 9 ans et je voulais vous demander comment ils faisaient les gens avant pour se regarder parce qu'ils n'avaient pas de miroir.